Les solutions crédit. Un podcast proposé par Dynastie AM, présenté par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce tout nouveau podcast proposé par les équipes de Dynastie AM. Ensemble, nous allons parler crédit, mais attention, il ne s'agit pas de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, mais on parle ici de crédit obligataire. Cela ne vous dit rien, pas de panique, comment cela fonctionne, à qui cela est destiné, comment investir, pour quel horizon de temps. Deux experts sont avec nous en plateau pour nous éclairer. On est ravis d'accueillir Mehdi Kourichi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes commercial France de Dynastie AM.
Tout à fait.
Et Simon Roger, qui est lui la matière grise, la tête pensante, gérant analyste chez Dynastie AM. Bonjour Simon.
Bonjour Fabrice.
On démarre tout de suite avec vous Mehdi et la présentation de cette société de gestion Dynastie AM.
Alors, Dynastie AM, c'est une société de gestion qui s'est créée en 2014 sous l'impulsion de Philippe Albe et Laurent Pluchat. Nous sommes des spécialistes du crédit et des convertibles. Nous gérons à l'heure actuelle 1,1 milliard d'euros et nous disposons d'une gamme d'une dizaine de fonds qui couvrent l'ensemble du spectre crédit et l'ensemble de l'univers investissable sur les convertibles. Alors, en ce qui concerne notre ADN, c'est très important afin de nous identifier. Il faut retenir trois choses chez Dynastie. Premièrement, nous sommes une maison indépendante. Indépendante capitalistiquement, j'entends, ce qui nous permet d'offrir une gestion qui n'est pas benchmarkée à nos porteurs de parts. Ceci est le deuxième point. Et le troisième point, afin d'identifier Dynastie AM, c'est que notre gamme nous permet de nous ériger en véritable one-stop-shop, en véritable guichet unique, où vous pouvez trouver une solution et un produit afin de répondre à toutes vos problématiques qui pourraient émerger quant à vos investissements dans le monde obligataire qui s'avère être pour le moins challengeant.
Alors, une question, Mehdi, justement, à quel type de clientèle vous adressez ?
Alors, Dynastie s'est fortement développée sur la clientèle intermédiaire à Luxembourg et en Suisse. Aujourd'hui, moi, je développe la clientèle française, un peu tout azimut, j'allais dire. Donc, CGP, Société de gestion, Family Office...
Les conseillers en gestion de patrimoine qui vont ensuite vendre donc les solutions à leurs clients finaux.
Et utiliser ce support pour bien expliquer le produit.
Alors voilà, c'est vrai qu'on connaît beaucoup les actions, les obligations. Le crédit, c'est une gamme, un produit qu'on connaît un petit peu moins. Alors on va s'intéresser aujourd'hui avec vous, Simon Roger, qui êtes gérant analyste donc chez Dynastie AM, à l'obligation perpétuelle subordonnée corporate. Bon, ça fait peur dit comme ça. Alors expliquez-nous tout d'abord ce qu'est une obligation perpétuelle et on va voir que ça remonte à très loin finalement ce produit.
Oui, en fait, l'obligation perpétuelle est un produit qui existe depuis très longtemps. La première obligation perpétuelle française a été émise sous François Ier. Donc ça remonte en 1522. On est sur un papier en fait, qui a extrêmement rebondi en 2013 avec les accords de Bâle, notamment par les financières qui avaient des minimum requirements sur leurs capitaux propres. Et le fonds Dynastie Credit Sub en fait, se concentre uniquement sur les obligations perpétuelles, mais des entreprises. C'est-à-dire que nous n'avons pas allé sur les bancaires, nous n'avons pas allé sur les assurances, c'est vraiment que sur les entreprises. Quand je vous dis que c'est un marché qui a extrêmement rebondi, on parle d'un marché de 20 milliards d'euros à peu près en 2013, et il est à plus de 200 milliards d'euros aujourd'hui.
Donc fois 10 en quelques années.
Exactement.
Alors, attendez, je reviens quand même à cette histoire incroyable. François Ier, c'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, ou juste après, le royaume finalement avait besoin de se financer, et on accordait déjà des crédits qu'on allait rembourser, alors sans échéance. On ne disait pas, tiens, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Le royaume, comme ça, pouvait battre monnaie et rembourser ses créanciers.
Tout à fait. Un autre exemple très connu est en Angleterre, en fait, où l'Angleterre a eu énormément recours à ce type de produit pour financer notamment les guerres napoléoniennes.
Ah oui, et voilà. Bon, ça les a aidés. Pour nous, un petit peu moins, effectivement. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que ces obligations, on en parle souvent. Une obligation, par rapport à une action que tout le monde connaît, on est propriétaire de la société. L'obligation, c'est une dette qui est émise par la société, par des entreprises, ce que vous appelez les corporates. Je traduis parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme et vous êtes habitué. On essaye de faire de la pédagogie aussi pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là. Et effectivement, on a ce qu'on appelle des qualités de signature, c'est-à-dire que évidemment, les sociétés, par exemple, du CAC 40 vont être mieux notées et plus à même de rembourser les crédits. Est-ce que ce sont elles, en priorité, les grosses entreprises qui vont faire ce type d'obligation perpétuelle ?
Oui, complètement. Vu qu'on est sur un produit qui est peu connu, les entreprises qui vont émettre des obligations perpétuelles vont avoir une histoire sur le marché du crédit. On va dire que ça ne va pas être le boulanger du coin qui va aller du jour au lendemain émettre. On parle aussi de souches moyennes de 800 millions d'euros. Donc toutes les sociétés ne sont pas capables d'émettre 800 millions d'obligations perpétuelles. Donc on va être sur des sociétés avec une capitalisation boursière assez importante. Et on va être aussi sur des grandes sociétés du CAC 40, mais des grandes sociétés aussi du DAX 40 aujourd'hui.
Du DAX 40, hein. Le DAX qui, on le rappelle, vient de passer de 30 à 40 sociétés. Voilà, ils nous ont copié pour une fois les Allemands. Ça sera plus simple. Est-ce qu'il y a un engouement, vous disiez, le marché x10, Mehdi, vous qui suivez par rapport justement à... Vous qui êtes au contact justement de ceux qui en fait vendent le produit. Est-ce qu'il y a un engouement en ce moment sur ce type d'obligation?
Alors écoutez, nous sommes vraiment dans un environnement de taux bas. Et aujourd'hui, avec ce produit-là, c'est ce que... je tends à promouvoir, on peut vous offrir un rendement qui va se rapprocher du high yield avec des sociétés investment grade.
Donc high yield, on traduit au rendement, c'est-à-dire des sociétés qui sont un petit peu plus risquées. En général, plus on est risqué et plus on est obligé d'offrir une prime qui est importante. Là, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre.
Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que les papiers ne sont pas investment grade. Mais je vais laisser Simon un peu plus développer sur la mécanique. Il n'y a pas de déjeuner gratuit sur les marchés financiers.
Exactement.
De free lunch, comme on dit. Donc Simon va expliquer cette
Alors Simon,
cette niche
investment
comptable.
Investment grade, high yield, c'est vrai que ce sont des
investissement
choses...
Investissement au rendement.
Oui.
Alors en fait, donc, ce qui est important de savoir pourquoi Mehdi dit qu'en fait on peut avoir le rendement en fait du haut rendement sur des papiers investissement, donc c'est qu'on parle d'obligation perpétuelle, mais ce côté perpétuel en fait, cette non maturité est seulement théorique. En pratique, ce n'est pas vrai. En pratique, en fait, on a ce qu'on appelle des dates de rappel, dates de call, dates de rappel en beau français. Ces dates de rappel vont intervenir entre 5 et 12 ans après l'émission de l'obligation perpétuelle, et la société va rappeler, donc c'est-à-dire va rembourser par anticipation son obligation perpétuelle à cette première date de rappel. Et pourquoi à cette première date de rappel? En fait, vous avez différents aspects techniques dans l'obligation perpétuelle, notamment le fait qu'il est comptabilisé sur la norme IFRS à 100% dans les capitaux propres. Donc vous prenez les états financiers des sociétés, vous prenez les états financiers Total, par exemple, qui est un émetteur d'obligations perpétuelles, ces obligations ne vont pas être dans la dette, vont être dans les capitaux propres. Les agences de notation, elles, vont retraiter à 50% ces obligations perpétuelles dans les capitaux propres et à 50% dans la dette. Si les sociétés ne rappellent pas en première date de rappel, elles perdent ce retraitement des agences de notation. Du coup, elles perdent aussi l'intérêt d'émettre des obligations perpétuelles.
Oui, alors c'est très important puisque vous êtes analyste financier. Ce qu'on regarde en priorité pour la bonne santé d'une entreprise, c'est aussi son endettement. Et on l'a vu quand il y a des credit crunch, c'est-à-dire au moment des subprimes, par exemple, en 2 minutes où il y a peu de liquidités, eh bien, ces sociétés qui sont très endettées, à ce moment-là, malheur à elles, on l'a vu au niveau de la capitalisation. Et c'est un petit peu le cas aussi avec la reprise de l'inflation. En ce moment, les sociétés très endettées commencent à souffrir. Alors, on a bien compris l'histoire de cette obligation corporate perpétuelle qui n'est pas vraiment perpétuelle puisqu'il y a des dates de rappel, vous l'avez signalé. Je voudrais maintenant qu'on s'attache à la subordination. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, tout simplement, ça veut dire qu'en cas de défaut de la société, vous allez être remboursé en dernier. Donc, vous allez avoir tous les autres porteurs d'obligations dites seniors qui vont être remboursés avant vous. Et en fait, vous allez être juste au niveau, au-dessus des actionnaires. C'est-à-dire... Le principal risque, c'est en cas de faillite, vous allez avoir un taux de recouvrement qui va être extrêmement faible. Nous, chez Dynasty, pour pallier ce risque, on va investir dans des sociétés de qualité investissement. On revient sur les sociétés d'excellente qualité. Aujourd'hui, on va reprendre l'exemple par exemple de Total. Si je vous demande quelle est, selon vous, la probabilité de défaut de Total, vous allez me répondre...
Bon, non, pas avant plusieurs dizaines d'années.
Pas avant plusieurs dizaines d'années au moins. Donc voilà, on va être sur un risque très faible. Ouais. Total aura remboursé son obligation perpétuelle avant ses 10 ans. Donc pour pallier ce risque, on est uniquement en fait sur des sociétés avec une qualité de crédit qui va être très bonne.
Tiens, on va l'expliquer par un autre exemple. Alors, c'est sous les feux des projecteurs en ce moment, c'est l'énergie avec EDF. Le cas d'une obligation EDF perpétuelle call janvier 2026, c'est-à-dire qu'elle serait rappelée, c'est ça, en janvier 2026.
Tout à fait.
Là, est-ce qu'on peut donner un point de comparaison par rapport à une dette EDF senior novembre 2025, donc c'est-à-dire très très proche?
Alors écoutez, le rendement de l'obligation perpétuelle est de 2,10% par an et le rendement de l'obligation senior est de moins 0,02%. Donc
d'accord.
On a un rendement négatif d'un côté, un rendement extrêmement positif de l'autre. Et cette différence entre ces deux rendements, c'est ce qu'on appelle la prime de subordination. Je tiens à préciser qu'on parle de la, c'est vraiment la même société, hein, il n'y a pas de loup
caché. C'est la même société, seulement si EDF était en défaut à ce moment-là, en novembre 2025, on est senior, c'est-à-dire on est remboursé en priorité. Et en 2026, si tout va bien, on a cette prime de subordination.
Exactement. Voilà. Aujourd'hui, sur le marché, on est sur une prime de subordination moyenne qui est autour de 160 points de base.
160 points de base, donc 1,60%.
Qui est au-dessus des niveaux historiques, de la moyenne historique qui se situe autour de 100 points de base. Donc ça reste attractif aujourd'hui.
Donc c'est très attractif effectivement. On a compris que si on était finalement sur une qualité de papier, une signature, comme vous dites, une grande entreprise, du CAC 40, on prend quand même peu de risques, bon, sauf énorme accident industriel ou apocalypse nucléaire, on peut imaginer.
Si je puis me permettre, si demain ces grandes sociétés du CAC 40 font défaut, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes et je pense que tous les marchés sont à des niveaux très bas.
Ouais, effectivement. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. Comment être sûr qu'on va bien être remboursé en première date de call?
Alors justement, notamment du fait
que dans notre exemple, la perpétuelle call janvier 2026, vous le disiez, l'entreprise est fortement incitée à le faire.
Elle est fortement incitée à le faire, notamment donc déjà d'un point de vue des agences de notation. Si elle ne le rappelle pas, donc là je vous donne la grande image, hein. Si elle ne le rappelle pas, l'agence de notation va retraiter cette obligation perpétuelle à 100% dans sa dette, donc ce qui va augmenter son effet de levier financier, qui peut potentiellement conduire à une dégradation de sa note.
Ce qu'elle veut absolument éviter.
Ce qu'elle veut absolument éviter, car plus la note est élevée, moins elle se finance cher sur les marchés du crédit. Autre point, vous avez je suis désolé pour cet anglicisme, hein, mais c'est vraiment le mot, il n'y a pas tellement de traduction en français, il y a des step-up, des augmentations du taux. Donc en fait, sur la première phase, on est sur un coupon fixe. Ensuite, après la première date de rappel, on part sur un coupon variable avec des petites augmentations, des petites step-up, des petits boosts qui peuvent potentiellement augmenter le coupon. Et donc, la société peut avoir
Donc, ça va lui coûter plus cher de financer sa dette.
Oui.
Est-ce qu'il y a des exemples, justement, Simon Roger, de sociétés qui ont rappelé, en fait, ce crédit perpétuel, cette dette perpétuelle, et qui disent, nous, on arrête les frais, on paye, finalement, et on annule le papier?
En fait, toutes les sociétés. Tout simplement, toutes les sociétés, sauf à quelques exceptions, des sociétés qui étaient déjà, on va dire, qui avaient déjà des ratios financiers qui s'étaient fortement dégradés avant la date de rappel. Sinon, toutes les sociétés rappellent en première date de rappel. Je prends par exemple vous avez la théorie, moi j'aime bien ces deux exemples pour la pratique. Je vais vous prendre deux sociétés légèrement impactées par le Covid en 2020, donc qui sont Air France et Accor. Air France et Accor ont rappelé en première date de rappel leurs obligations perpétuelles en mai et en septembre 2020.
D'accord, effectivement, on comprend bien pourquoi. Alors, on va parler du fonds proposé par Dynasty AM pour opérer ces stratégies. Quel est le fonds que vous mettez en avant?
Alors, le fonds qui déploie cette stratégie, c'est Dynasty Credit Sub, que vous pouvez trouver chez Cardif en assurance vie ou auprès de votre CGP, et en compte titre sur Alpheis et la plateforme Norcia Invest.
Voilà, Cardif, Alpheis, Norcia Invest pour l'assurance vie et pour le compte titre. Les caractéristiques, justement, si on veut investir, on a parlé quand même de souches assez importantes, 800 millions d'euros, on ne les a pas tous. Est-ce qu'on peut, à partir de quel montant, justement, on peut mettre en place cette stratégie?
Alors, la part payée en euros est accessible dès 1000 euros.
Donc, payé particulier, c'est ça,
exactement, private investor. Exactement. Et pour parler vraiment à l'investisseur, nous sommes sur un DC 3, donc une échelle de risque qui va de 1 à 7, qui se situe sur le bas du spectre.
Voilà, relativement modéré. Alors, évidemment, la question, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quel est le rendement attendu sur ce type de produit ?
Aujourd'hui, sur le rendement, on est sur un rendement un peu plus de 2% par an. C'est à mettre en relation avec aujourd'hui. Donc, la qualité investissement en euros, c'est grandes sociétés qui rapportent légèrement au-dessus de 0% de rendement. Mm-hmm. Donc, nous, au-dessus de 2%, on est... Voilà, c'est cette fameuse prime de subordination qui nous rémunère et c'est ce qu'on offre à nos porteurs.
Bah c'est plutôt pas mal. Qui peut faire aujourd'hui de ce type d'investissement? Quelle catégorie? On a parlé des private investors. Ça va s'adresser à qui?
Toute personne ayant des problèmes de sommeil qui souhaite dormir tranquille et avoir en fait le rendement donc, de cet univers à haut rendement sur la qualité de crédit investissement des grandes sociétés.
Très bien, donc on rappelle un Dynasty Credit Sub, donc la PARPE, hein, disponible donc les assurances vie Cardif, compte titre sur Alpheis, Norcia et Norcia. En tout cas, un produit qui revient sur le devant de la scène, un produit très intéressant. On sait maintenant pourquoi. On en sait un petit peu plus sur ces obligations corporate, perpétuelles, subordonnées. Un grand merci à nos deux invités, Mehdi Kourichi, merci
Fabrice.
Commercial France de Dynasty M. Merci également à Simon Roger,
merci
gérant
Fabrice.
Analyste chez Dynasty M. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast, Les Solutions Crédit.
Les Solutions Crédit. Un podcast proposé par Dynasty AM à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.